Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne. On commence avec quelques infos complémentaires au journal de RFI. Et toi, Léa Perron, salut Léa.
Bonjour Baptiste, bonjour à toutes et à tous.
Après ces élections, que vont devenir les grands projets inutiles?
Et en particulier le projet de ligne à grande vitesse Bordeaux-Dax-Toulouse. Le collectif LGV Non Merci organise une réunion publique ce soir à Bègle pour informer sur le lancement de l'enquête publique environnementale sur les AFSB, les fameux aménagements ferroviaires du sud de Bordeaux. Cette enquête devait avoir lieu à partir du 24 juin. Elle a été décalée par la préfecture et ne commencera que le 15 juillet, pour se dérouler donc en plein été jusqu'au 13 août. Le collectif LGV Non Merci déplore ce calendrier et invite à la fois les habitants et les habitantes et les élus à se positionner sur le sujet en participant à l'enquête. Et on reviendra sur le sujet demain midi dans notre émission. La réunion publique ce soir, elle, a lieu à partir de 19h à la salle de Mussonville à Bègle.
À l'approche des JO qui auront lieu cet été à Paris, plusieurs syndicats du groupe ADP qui gère les aéroports de Paris appellent à la grève.
Les syndicats réclament, je cite, une gratification pour l'ensemble du personnel et dénoncent une dégradation des conditions de travail. La direction du groupe ADP, quant à elle, a annoncé verser une prime uniquement à une partie du personnel. Les syndicats dénoncent des méthodes de division et réclament des compensations pour l'ensemble du personnel. D'après eux, l'entreprise dispose des ressources pour répondre aux demandes légitimes des salariés et de leurs représentants et évoque des dividendes confortables des actionnaires. Un mouvement de grève est annoncé dans les aéroports de Roissy et Orly pour le 17 juillet prochain. À la SNCF et à la RATP, des mouvements de grève similaires ont eu lieu ces derniers mois et ont abouti à la mise en place de primes pour les salariés de ces deux groupes.
Une question maintenant, qui assure le service d'ordre du Rassemblement National à Bordeaux ?
Rue 89 Bordeaux a mené l'enquête au QG du Rassemblement National, boulevard Georges V à Bordeaux, après les résultats du premier tour des législatives. Plusieurs des hommes présents arboraient un brassard avec les initiales DPS, qui renvoie selon Rue 89 Bordeaux vers deux entités. La première, le département protection sécurité, qui est le service d'ordre historique du Rassemblement National. Et le deuxième, la société DPS pour Dracar Protection Sécurité, créée en 2007. Le premier a été créé en 1985 par un ancien membre de l'OAS, organisation terroriste d'extrême droite, qui a longtemps défendu la présence française en Algérie. Plus qu'un service d'ordre, il s'agirait aussi d'un service de renseignement du Front National, actuellement Rassemblement National. Il fut responsable de plusieurs dizaines d'incidents et de violences commises contre les opposants politiques au FN entre 1987 et 1999. La société DPS, elle, a été fondée par Arnaud Lagrave, militant d'extrême droite. Des photos le montrent aux côtés de militants d'extrême droite à Bordeaux, notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes, gants renforcés aux mains, il faisait face à des groupes antifascistes. Contacté par Rue 89 Bordeaux, la société dément sa présence au soir du premier tour, invoquant un rachat de l'entreprise et donc elle ne serait plus en lien avec Arnaud Lagrave. Elle ajoute que qu'il s'agit d'une usurpation de l'identité de son entreprise. Arnaud Lagrave était notamment associé à Diédéric Meynier, fondateur du Tout Atis Clan, qui se présente comme une association de bikers. Révélé en 2020 par Le Pavé Brûlant, le club abrite en réalité plusieurs adeptes de la mouvance néo-nazie locale. Un de ses membres, Sébastien Butel, élu au conseil municipal de Floirac et candidat local RN, apparaît sur une vidéo avec comme tatouage une rune d'Odal. Il s'agit d'un symbole utilisé par la 7e division SS, connue pour ses atrocités commises contre les populations civiles des Balkans durant la Seconde Guerre mondiale.
Et puis le site d'extrême droite Réseau Libre a publié hier, lundi, des menaces de mort à l'encontre de personnalités de gauche, tout en dévoilant leurs adresses.
La semaine dernière, ce même site d'extrême droite avait publié une liste de 98 avocats et avocates, je cite, à éliminer. Ces derniers ont été pris pour cible après avoir signé une tribune contre le Rassemblement National. Parmi les nouvelles cibles du site, Alexis Corbière, Manuel Bompard, Yann Brossard, Rachel Kéké et Yacine Brouzou, avocats engagés contre les violences policières. La tribune, supprimée depuis, était intitulée, je cite, « Laissez les 95% de connards crever, mais faites-vous plaisir ». L'auteur, qui était sous pseudonyme, dénonce les résultats du second tour des législatives. Il précise, je cite, que pour neutraliser ses cibles, un bon couteau de cuisine, voire une arbalète, voire un manche de pioche suffit. Face à cette violence et ces menaces, Yacine Bouzrou a porté plainte lundi auprès du parquet national antiterroriste. Yann Brossat, quant à lui, sénateur PCF de Paris, a assuré avoir fait un signalement à la ville de Paris.
Et puis ce soir à Bordeaux, un agenda, un moment important, une assemblée générale de toutes les AG ouverte à tous est prévue. Elle est notamment appelée par l'Assemblée générale féministe de Gironde qui invite à s'organiser collectivement, à élaborer ensemble une stratégie pour faire advenir le monde que nous voulons. Le rendez-vous, il est donné à partir de 18h15 à la salle Sonté. C'est dans le quartier Belsier, derrière la gare, précisément 47 rue de Sonté. Les informations, elles sont à retrouver sur la page de l'Assemblée Générale Féministe de Gironde. Merci beaucoup Léa pour toutes ces infos. 12h16 sur la clé des ondes. On revient sur cette situation politique inédite, en tout cas qui semble être inédite et qui nous surprend et dont on ne sait pas trop vers où on va. J'accueille pour cela un invité, Julien Giudicelli. Bonjour Julien.
Bonjour.
Tu étais déjà venu nous parler, je crois, au moment des contestations de la réforme des retraites et des moyens légaux, constitutionnels de contester cette loi. Tu es maître de conférences en droit public et spécialiste notamment du droit constitutionnel. On va revenir avec toi sur tout ça. Avant ça, je donne quand même, redonne les résultats pour ce qui concerne la Gironde, résultats de ces élections législatives sur l'ensemble de ces 12 circonscriptions. Thomas Cazenave, macroniste, qui était ministre délégué au compte public, est réélu dans la première circonscription. Nicolas Thierry, l'écologiste, réélu dans la deuxième. Loïc Prud'homme, de la France Insoumise, réélu dans la troisième circonscription. Alain David, également réélu sur la quatrième. Il est, lui, membre du Parti Socialiste. Là où ça change, c'est sur la cinquième, dans le Médoc, où c'était un député du Rassemblement National qui est battu par la PS Pascal Gau. Idem sur la sixième, Marie Récal reprend la circonscription, elle est membre du PS et avant elle c'était un élu macroniste. Sébastien Saint-Pasteur est élu sur la 7e circonscription autour de Pessac, il est lui aussi membre du Parti Socialiste. Sur le bassin d'Arcachon, c'est Sophie Panonacle, la macroniste, qui est réélue. Sophie Mette du Modem, réélue dans le sud de Gironde. Florent Boudier, macroniste, réélu dans le Libournais. Edwige Diaz, c'est la seule élue RN donc, dans cette nouvelle assemblée pour la Gironde. Elle avait été élue dès le premier tour dans la Haute-Gironde. Et puis pour terminer, Mathilde Feld de la France Insoumise qui remporte la 12e circonscription, l'Entre-deux-Mers, qui la remporte de peu face au Rassemblement National. Ça fait donc au total 4 élus PS, 4 élus de Ensemble, 2 de la France Insoumise, 1 écolo et 1 du Rassemblement National. Au niveau national, justement, c'est plus compliqué puisqu'il y a encore une discussion en ce moment même à Paris sur qui siégera, quel député siégera dans quel groupe à l'Assemblée nationale. On rentrera peut-être tout à l'heure dans le détail, Julien, mais en tout cas, ce qu'on peut dire a priori, c'est qu'il y aurait un groupe du Nouveau Front Populaire avec plus de 190 députés, 193 députés probablement. Ensemble aurait 165 députés. Les Républicains en auraient 39 plus 16 divers droites, donc ça ferait 55 élus de droite, et puis le RN 126 élus plus les 17 qui sont des anciens des Républicains, ce qui porte un total à 143 élus d'extrême droite. Julien Giudicelli, quand tu vois cette nouvelle condition de l'Assemblée nationale, c'est quoi ta première réaction? Tu dis que ça va être le bazar, ça va être compliqué.
Tout d'abord, j'ai pas les mêmes petits chiffres, hein, mais à quelques sièges près, là,
ça évolue en ce moment même, je crois, parce qu'on ne sait pas encore où vont siéger les uns les autres.
Mais j'ai les chiffres du ministère de l'Intérieur, par rapport aux divers, que ce soit les divers gauche ou les divers droite. Est-ce que ça va être, comment dire, le bazar, hein, comme tu le disais? Je crains que oui, parce que, première chose, personne n'a la majorité absolue. La majorité relative du nouveau Front populaire, donc si l'on additionne le NFP en propre et la gauche ou les divers gauches, dont par exemple les dissidents ex-LFI comme Alexis Corbière, ça nous fait effectivement 195 sur 577. Donc il faut presque, il aurait fallu presque 100 sièges de plus pour accéder à la majorité absolue. Mmh. Il faut savoir que la première fois dans l'histoire de la Ve République où il y a eu majorité relative, c'est lors du second septennat de François Mitterrand, avec donc comme Premier ministre qui a gouverné 3 ans, Michel Rocard, et il lui manquait quelques dizaines de sièges. La seconde fois, c'est donc il y a 2 ans, où les troupes de Macron étaient à 40 sièges, et là, on est à une centaine de sièges.
Donc, manquant.
Centaine de sièges manquants pour arriver à la majorité absolue, encore une fois, qui est à 289 sièges. Donc,
c'est pas la même chose qu'une vingtaine ou une quarantaine, là, ça devient une marche.
C'est absolument différent. Alors, on parle d'ingouvernabilité. Effectivement, là, j'ai entendu sur la matinale de France Inter, Yaël Braun-Pivet, qui
était la présidente de l'Assemblée nationale
sortante, qui d'ailleurs réclame de nouveau le siège du perchoir, qui a une importance symbolique. Hein. Par ailleurs, c'est le 5e personnage officiel de l'État dans le protocole, et qui prétend à une alliance entre PS et divers droits. Centre-droit. Je classe plutôt ensemble dans le centre-droit. Donc là, effectivement, on arriverait à une majorité absolue, on serait proche d'une majorité absolue avec les troupes d'ensemble, soit le Modem, Renaissance et l'UDI.
C'est-à-dire ça fait 165 pour ensemble. Si on y ajoute les 65 du PS, on arrive à 270. Il faudrait encore aller creuser, je ne sais pas, au PC, quelques écolos.
PC, ça m'étonnerait quand même que le PC s'allie avec le Modem, Renaissance et l'UDI. Ça m'étonnerait fortement. Alors il y a un discours d'ailleurs qui était pendant la campagne très brève, tant au premier qu'au second tour, le discours de la majorité relative sortante, amalgamant LFI et RN. Alors si, effectivement, depuis le 7 octobre, il y a eu certaines individualités de LFI qui ont un discours relativement problématique, beaucoup quand même restés, je vais dire, dans une logique, on va dire, républicaine. Première chose, le Conseil d'État a toujours considéré, et c'est important, que les 4 forces de la gauche, soit le Parti Socialiste, les écologistes, le Parti Communiste et LFI, les a toujours rangés dans la catégorie gauche. Quand le Conseil d'État, en revanche, a toujours rangé le FN, maintenant RN, dans la catégorie extrême droite. Ça change beaucoup de choses. Alors effectivement, il y a l'hypothèse de cette exclusion d'un gouvernement pour faire un gouvernement entre guillemets d'union nationale avec, on va dire, effectivement la gauche, exclusion LFI, et on va dire le centre-droit de la majorité relative sortante. Et là, effectivement, Yaël Braun-Pivet, au contraire d'un François Bayrou, n'a pas évoqué les LR, les RR historiques, hein, je ne parle pas des LR
Ciotistes,
alliés, tout le monde le sait, hélas, avec le RN. Encore une fois, on est proche de la majorité absolue, ce qui changerait la donne. Mais j'ose croire que les socialistes, ce n'est pas le cas d'Olivier Faure, qui a toujours un discours d'union, mais Glucksmann parle des gens adultes. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifierait que parmi les adultes, il exclurait LFI. Donc, cette individualité, qui par ailleurs n'est pas socialiste, mais qui est proche des socialistes avec ce micro-parti Place Publique, prônerait de façon implicite cette alliance. Moi, cette alliance que je considère contre nature aurait des effets délétères. Pour quelle raison ? Parce que le peuple de gauche, il en existe toujours un, même si, en termes de voix, il est toujours derrière le RN, 1,5 million de voix, puisqu'on le sait, le RN est arrivé à 10 millions, plus de 10 millions de suffrages exprimés. Ça désespérait plus encore le peuple de gauche, qui se sentirait absolument trahi, qui a fait résistance encore une fois grâce à ce front républicain qui, quand même, il faut le constater, s'étiole de plus en plus, et serait pour beaucoup décidément dégoûté de la politique, et pour beaucoup s'abstiendrait.
Alors, bon, ça, ce sont les discussions politiques qui ont lieu, qui ont commencé et qui vont se poursuivre sans doute dans les jours et les semaines à venir. On va revenir un peu avec toi sur les règles du jeu et qu'est-ce qu'elles permettent aujourd'hui dans cette situation où il n'y a pas de majorité absolue. Alors d'abord, l'élément qui occupe ces jours-ci, c'est la question du Premier ministre et de qui Emmanuel Macron nommera-t-il Premier ministre. Est-ce qu'il y a des règles là-dessus, Julien, ou est-ce que tout ça, c'est de la pratique? Il y a une pratique qui était de nommer le chef de la majorité ou de l'opposition, enfin en tout cas du groupe parlementaire le plus important. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est écrit sur cette question-là de la nomination du Premier ministre?
Alors l'article 8, en son premier alinéa, le second concerne la nomination des ministres seulement. L'article 8 concerne la nomination du Premier ministre et est relativement vague. C'est ce que l'on appelle, les conseillers, un pouvoir propre. Du président de la République. Qu'est-ce que veut dire pouvoir propre ? C'est que ce décret, contrairement aux autres, il y a quelques autres exceptions, contrairement aux autres, ce décret n'est pas contresigné. Je précise, pour qu'un décret entre en application, il faut non seulement qu'il soit effectué par le président de la République, dans d'autres occasions le Premier ministre, et que ce décret soit contresigné par le chef du gouvernement. Or, ce n'est pas le cas pour cet article et d'autres, comme on l'a vu, la dissolution. Dit autrement, il est absolument libre. C'est un pouvoir qu'il détient, qui pourrait être utilisé comme un certain pouvoir de nuisance. Première chose. Seconde chose, aucun délai n'est prévu par cet article 8 pour que le président nomme un quelconque Premier ministre.
Donc il peut attendre le temps qu'il veut.
C'est ce qu'on entend de plus en plus, c'est-à-dire après les Jeux Olympiques, ce qui nous ramènerait à la fin août, début septembre. Gabriel Attal demeure en fonction. La démission qui a été donnée hier, c'est la tradition républicaine. Ça ne veut rien dire. Il a été aussitôt renommé Premier ministre.
Attendant, Gabriel Attal reste Premier ministre, Gérald Darmanin reste ministre de l'Intérieur et tout continue dans les ministères comme avant ?
Oui, sauf que, comme l'on le dit, il gère les affaires courantes. Il ne peut plus y avoir de projet véritablement politique, première chose. Et les députés se réunissent le 18 juillet, mais il ne va pas y avoir de session extraordinaire. Donc, ils sont ensuite en vacances, tout simplement. Bon. Et je ne vois pas, alors il y aurait possibilité que maintenant, il y ait un renversement par motion de censure de Gabriel Attal. À mon avis, on fait un petit peu de la politique fiction, hein, on est obligé de le faire. Bon, il semblerait que Macron prenne tout son temps. Et effectivement, je le répète, rien dans l'article 8 ne donne de délai. Alors, par rapport à l'autre aspect que tu as évoqué, la tradition veut effectivement que le Premier ministre soit issu du bloc, en l'occurrence ici de la gauche, et du parti arrivé en tête dans ce bloc. Dit autrement, normalement, le Premier ministre, mais là ce n'est que la pratique, rien n'est prévu dans la Constitution, devrait être issu du parti le plus, au mouvement le plus influent, soit LFI. Alors, la personne maintenant de Mélenchon depuis 2022 ne fait pas consensus, mais ça pourrait être un LFI, entre guillemets, plus présentable, par exemple Corbière qui a été réélu depuis le premier tour, ou d'autres. Ça pourrait pas être François Ruffin, parce qu'on l'a vu, François Ruffin, comme Alexis Corbière, ne sont plus, et pour cause, à LFI. Donc le paysage politique s'est bouleversé en 3 semaines depuis la dissolution.
En tout cas, Emmanuel Macron peut faire ce qu'il veut. Il y a une pratique.
Emmanuel Macron peut faire tout ce qu'il veut, mais attention. S'il nommait, par exemple, un Premier ministre, une Première ministre issue de la coalition Ensemble, avec les trois forces, encore une fois, Renaissance, l'UDI et le Modem, ce Premier ministre serait aussitôt exposé à une motion de censure, avec les forces hétéroclites, tant de gauche, de droite que de l'extrême droite.
Alors, peut-être on le rappelle, motion de censure, c'est un texte qui est proposé par n'importe quel des groupes. et qui, s'il réunit la majorité des absolue des voix, permet de virer le gouvernement dans sa totalité. C'est ça, Julien Juitelli. Je rappelle que tu es maître de conférence en droit constitutionnel et que c'est à ce titre que tu nous donnes toutes ces lumières.
Les lumières n'exagéreront pas, je ne suis pas omniscient. Juste un petit correctif. Tout groupe ne peut pas déposer une motion de censure. Il faut à peu près un dixième des membres composant l'Assemblée nationale, pas à peu près, exactement, soit 58 députés. Dit autrement, par exemple, les LR Ciotistes, je crois que c'est une petite quinzaine, qui peuvent donc former un groupe. C'est le seuil en deçà duquel on ne peut pas former de groupe. Mmh. Il faut donc, à minima, 58 députés. Chose que peuvent faire, par exemple, les LR Canal Historique. Par ailleurs, je précise, relativement à l'article 49, en son troisième alinéa, il faut 289, soit la moitié plus une voix des membres composant l'Assemblée nationale. Des membres composés l'Assemblée nationale, non pas des membres présents. Je m'explique. Donnons un cas de figure. Émettons l'hypothèse qu'il y ait 400 députés présents à l'Assemblée nationale. 177 ne sont pas là, qui à la buvette, qui restait à la maison, etc. Que cette motion de censure soit adoptée par 250 députés contre 150. Elle ne passe pas parce que c'est les membres présents. Alors, l'intérêt pour le groupe qui aurait une majorité relative influente, c'est qu'on confondrait, d'ailleurs ils ne sont pas là, ceux qui ne votent pas la motion de censure, on confondrait ceux qui veulent voter la motion de censure avec les abstentionnistes. Donc c'est ce qu'on appelle ici le parlementarisme rationalisé, qui est plus développé encore en Allemagne, qui lui bénéficie d'un scrutin proportionnel, peut-être qu'on en parlera.
On reviendra ouais, sur ça. Donc effectivement, tout gouvernement qui se mettra en place sera exposé dans tous les cas à cette motion de censure. Donc ça, c'est pour les risques. En attendant, qu'est-ce que, imaginons il y a une majorité relative qui à qui Macron permet de nommer, de mettre en place un gouvernement, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? On ne peut pas voter de texte de loi tant qu'on n'a pas une majorité absolue, mais qu'est-ce qu'on peut faire à l'Assemblée nationale avec un groupe qui serait autour de 200 députés, qui aurait un gouvernement de la même couleur politique? Qu'est-ce qui est possible à la fois à l'Assemblée nationale et à la fois au gouvernement dans ce cas de figure où il n'y a pas de majorité qui se dégage?
Alors si absolue. On peut voter à la majorité relative un texte, une proposition ou projet de loi, à la condition que les oppositions hétéroclites ne votassent pas contre ce projet de loi. C'est-à-dire l'alliance de toutes les positions. Parce que maintenant, avant, on était dans un système bipolaire qui a toujours été prévu comme cela, bloc de gauche contre bloc de droite. Maintenant, il y a tripolarité, voire quadripolarité, si on compte la droite. Alors il y a majorité relative. On l'a vu par rapport aux deux exemples précédents, Michel Rocard 1988, les différents gouvernements qui se sont succédés en deux ans depuis 2022. C'est possible. Mais moi, mon hypothèse, encore une fois, c'est de la politique fiction. Sur la mesure la plus emblématique que les quatre mouvements de gauche ont présenté à la va-vite, et ils étaient bien obligés, parce qu'il n'y avait que trois semaines pour aller au premier tour depuis le 7, depuis le 7,
7, juin.
7 juin, merci. Comment dire ? La mesure la plus emblématique, c'est l'abrogation de la loi relevant le seuil de la retraite à 64 ans. La loi passée, tout le monde le sait, au 49 alinéa 3, est passée de très près à quelques députés près, si je ne me trompe, seulement 8 députés, il manquait 8 députés pour que le gouvernement soit censuré, donc à la majorité absolue, comme je l'ai expliqué, là ici c'est l'article 49, deuxième alinéa. Il y aurait le risque que cette mesure emblématique ne passe pas. Je ne vois pas les trois forces du groupe ensemble la voter. Cette loi, LR a bossé la motion de censure, donc était censé être contre la loi retraite, mais c'était un positionnement politicien. Sauf quelques rares LR, effectivement, étaient opposés à cette loi. Le RN a voté pour des raisons purement politiciennes cette loi. Il peut y avoir alliance hétéroclite pour faire tomber cette loi. après l'éventuelle utilisation par le gouvernement, par le Premier ministre, pour être plus exact, de l'article 49 alinéa 3. Donc, par exemple, je me répète, politique fiction, mais cette mesure emblématique, il est probable qu'elle ne passe pas. Donc, en fait, il est probable que sur d'autres lois emblématiques, par exemple, la réinstauration de l'ISF qui avait été supprimée dès 2017 par Macron, alors même que la droite n'a jamais osé le faire, ça m'étonnerait qu'elle passe également. Donc, ces deux, sur ces trois mesures emblématiques, sont en danger. Il y a possibilité de gouverner en partie par décret.
Hein, voilà, c'est ce que qu'annonce déjà une partie du Nouveau Populaire, dire on prendra des décrets pour les mesures d'urgence. Qu'est-ce qui peut être fait avec ces décrets?
C'est un peu s'enthousiasmer trop vite. Alors, par exemple, sur l'assurance chômage, là, effectivement, ce n'est pas du domaine de la loi, c'est du domaine de décret. Là, en revanche, effectivement, on pourrait repousser ce texte, qui est quand même plus que problématique et qui est très sévère pour les chômeurs. Tant plus que si je ne m'abuse, ça fait la troisième réforme par décret, parce que normalement, ce sont les partenaires sociaux, qui tous, y compris jusqu'au MEDEF, n'aiment pas cette façon de gouverner de la part d'un pouvoir de plus en plus vertical, qui ne le sera plus depuis donc avant-hier. Mais, enfin, il y a ce qu'on appelle le domaine de droit commun, qui est l'article 37, et le domaine réservé à la loi, l'article 34.
Bon, mais c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il y a un domaine de compétences législatives limitativement énuméré qui donc ressort de la loi, et tout le reste, le domaine résiduel, ressort du pouvoir du règlement. C'est-à-dire,
et donc peut être repris par décret.
Par décret. Mais malgré tout, sur les mesures politiques les plus importantes, je ne vais pas décliner parce qu'il y a plusieurs matières qui relèvent de la loi. Donc, par exemple, la loi pénale, pour ne donner qu'un exemple, je ne vais pas tout décliner. C'est difficile quand même de gouverner par décret. Les réformes sociales, la loi en retraite, c'est bien de la compétence législative. Donc là, par exemple, par rapport à l'abrogation de la loi retraite qui est toute récente, ce ne serait pas possible par la voie réglementaire. Le Premier ministre ne pourrait pas la supprimer. On ne peut passer que par la voie législative, avec le danger que j'évoquais tout à l'heure, que cette réforme soit ne soit pas votée, soit, si le Premier ministre décide de passer par le 49 alinéa 3, qu'il soit censuré.
Peut-être une dernière question très rapidement. Cette constitution de la Ve République, on voit à la fois qu'elle quand même maintient un écart entre ceux qui gouvernent, ceux qui décident et la population, mais dans le même temps qu'elle, jusque-là, a ralenti l'accession de l'extrême droite au pouvoir. Donc je ne sais pas comment on peut peser les avantages et les inconvénients. Est-ce que juste ce n'est pas le moment de la réformer, de faire des choses? Alors François Ruffin a proposé le référendum d'initiative citoyenne qui avait été une des revendications des Gilets jaunes. Est-ce que ce n'est pas le moment de retravailler cette constitution pour rapprocher les citoyens, les citoyennes du pouvoir?
On peut critiquer la Ve République et je la critique résolument. Mais il est absolument impossible aujourd'hui de la réviser. Pourquoi ? Parce qu'il faut tout d'abord que les deux assemblées votent en termes identiques le projet de loi déposé par donc l'exécutif. Et il faut ensuite deux hypothèses, les deux assemblées soient réunies en congrès et les députés et sénateurs votent ensemble avec une majorité des 3/5. Ou le président de la République par référendum, mais celui-là, c'est pas le référendum de l'article 12, c'est l'article 89, convoque les électeurs pour qu'ils décident in fine. Mais la première étape, c'est un vote en termes identiques, ça veut dire pas d'amendement, de ce projet de loi, tant par les députés que par le Sénat. Hypothèse hautement improbable.
Merci beaucoup Julien Giulicelli pour toutes ces réflexions. Je rappelle que tu es maître de conférence en droit public et donc spécialiste de droit constitutionnel. On verra ce qui va se passer dans les semaines à venir et peut-être on te réinvitera pour une réflexion à nouveau sur tout ça. Merci beaucoup à toi.
Avec très grand plaisir et merci pour cette invitation.
Dieu.